Symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Georges Bataille.
On peut dire que Georges Bataille a été l'un des écrivains majeurs du XXe siècle, mais en même temps, bien entendu, ça a été beaucoup plus qu'un écrivain, puisque de par sa formation sociologique, de par son intérêt pour tout ce qui est de l'ordre de la mystique et de la religion, par sa fréquentation, même si elle a été souvent latérale du groupe surréaliste, c'est quelqu'un qui, à l'évidence, dépassait toutes les catégories et qui était d'abord le héros de ce que, à sa suite d'ailleurs, on a appelé l'expérience intérieure. Et c'est précisément de ce point de vue-là que nous nous intéressons à lui dans Les Vivants et les Lieux, d'autant plus que viennent d'être édités dans la collection de la Pléiade chez Gallimard l'ensemble des romans et récits de Georges Bataille, à travers lesquels se donne tout son effort de réflexion, tout son effort de méditation et en fin de compte toute son explication avec ce que il faut bien appeler le sacré. Car il est évident, et cela va ressortir sans aucun doute, que le sacré est une notion fondamentale chez Georges Bataille, et que de ce point de vue-là, il relève de l'ordre de la mystique, même si, selon un très bel oxymore qui a été inventé dans le siècle passé, il est de ce que l'on appelle des athées mystiques. Et afin de comprendre quelle est cette importance de Georges Bataille, quelle est en même temps la tessiture, pour ne pas dire la structure de sa pensée, quelle est sa dynamique, quel est son mouvement, comment il s'approche de ces zones du sacré avec une démarche qui lui est totalement particulière, à tel point d'ailleurs que l'on sait que Georges Bataille va influencer quelqu'un comme Jacques Lacan, c'est-à-dire la figure proue de la psychanalyse en France au XXe siècle, pour explorer donc ce monde étrange d'une certaine façon, ce monde qui nous dépasse, en même temps que pourtant il est totalement hanté, au sens évidemment de l'antage que l'on fait sur une branche d'arbre. Il est totalement plongé dans notre monde matériel à nous, à la fois l'habitant totalement et le dépassant. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Jean-François Louette, qui a dirigé le volume de la Pléiade, qui est professeur de littérature française à l'université de Lyon 2, et Christian Jambé, professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire à l'École normale supérieure.
L'idée de Bataille, finalement, pour autant qu'on puisse la comprendre et la préciser, c'est que la mort de Dieu laisse une place vide, mais que de cette place vide, on peut encore s'approcher, qu'on peut essayer de la regarder, même si elle a quelque chose d'éblouissant et d'opaque en même temps. Et c'est peut-être le lieu paradoxal où, en effet, se situe toute son œuvre.
On pourrait même soutenir, peut-être, que la compréhension que Bataille a eue du mot de Nietzsche, « Dieu est mort », allait à rebours de l'athéisme contemporain courant, et qu'il permettait, ce mot de Nietzsche, un retour à une sorte d'apophatisme radical, en un sens alors tout à fait nouveau et tout à fait particulier. Je veux dire par là une négation de Dieu comme totalité de l'être, de Dieu conçu comme étant suprême, ou de Dieu conçu comme l'existant parfait, nécessaire par soi, tel que, au fond, aux yeux de Bataille, l'œuvre de Hegel, la théologie hegelienne, en avait donné l'ultime configuration. Ce qui est tout de même frappant, non pas dans les commencements de l'œuvre de Bataille, mais disons dans son moment culminant, c'est-à-dire l'expérience intérieure, le coupable sur Nietzsche, la somme athéologique. Ce qui est tout à fait frappant, c'est le fait que Bataille, enrichi de la lecture de Hegel proposée par Kojève, ait voulu proposer le témoignage de ce qu'il appelle expérience, précisément, et d'une expérience d'un réel qui, jusqu'à lui, s'est toujours configuré dans le discours de la théologie, mais qui, là, va se présenter essentiellement sous la figure ou de l'excès, ou du déchet, ou du manque, ou du reste, bref, de ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne peut pas entrer dans la formation d'un tout, ce qui, par quelque biais que ce soit, désorganise la totalité de l'existant. Et par là même, l'expérience de ce réel rejoindra à ses yeux l'expérience mystique, en ceci que, selon la définition qu'il se donne de la mystique, la mystique est l'expérience de ce qui outrepasse, transgresse, transcende toute espèce de réconciliation, ou, pour parler en termes hegeliens, toute espèce de Aufhebung, c'est-à-dire de reprise ou de relève de la contradiction, de la scission dans la belle totalité.
Parce que Dieu est mort, que l'homme est privé de l'accès à un au-delà qui serait en même temps un en-deçà. C'est-à-dire, c'est le thème de la transgression, si vous voulez, chez Bataille. La transgression, c'est une pensée de l'excès. Il y a toute une réflexion chez Bataille sur ce que c'est que le sacré, quoi. Pourquoi est-ce qu'il peut encore y avoir du sacré? Alors, la figure traditionnelle du sacré, c'est d'être un sacré à la fois solennel, personnel, et disons ascensionnel. Et chez Bataille, le sacré devient non pas solennel mais dérisoire et marqué par le rire, pensée fondamentale. Et le rire, quelque chose qu'il a souvent essayé de thématiser. Donc quelque chose de non solennel, quelque chose d'impersonnel, c'est-à-dire Dieu personne, Dieu en trois personnes, voilà des choses avec quoi Bataille veut rompre. Et en effet, pour finir, quelque chose de non pas ascensionnel, exceptionnel, mais c'est-à-dire transcendantal, conduisant vers un au-delà céleste ou supra-céleste, je sais pas comment il faut dire, mais horizontal, un sacré horizontal, si l'on veut. C'est-à-dire une divinisation du corps, par exemple. Il y a un sacré dans le corps, et c'est le passage célèbre de Madame Edwarda, où on voit la prostituée montrer son sexe au narrateur et lui dire « Je suis Dieu ». Donc l'idée de Bataille, ce serait que le corps humain tout entier, jusque et y compris dans ses parties basses, finalement relève de ce sacré d'un nouveau genre.
Vous avez fait allusion à toute la dette de Bataille vis-à-vis de Nietzsche, et l'immense admiration qu'il avait de lui, et la proclamation de Dieu est mort. Enfin, lorsqu'on lit Nietzsche, le Dieu est mort, c'était surtout le Dieu chrétien, finalement. Et on voit très bien comment, je dirais, il y a une appétence, si on ose le mot, mystique aussi chez Nietzsche, dans la mesure où Zarathoustra, ça fait quand même appel, ça fait référence au réformateur perse, et on voit toute la figure d'Ariane en tant que c'est l'ancienne âme du monde, etc. Et on a l'impression que Bataille est un peu pris, je dirais, dans le même mouvement. C'est-à-dire que la mort du Dieu chrétien ne signifie pas forcément la mort des dieux, mais je fais exprès de mettre Dieu au pluriel.
Oui, alors... Bataille, par exemple, il y a une figure qui importe beaucoup, c'est la figure de Dionysos, hein. Mais Dionysos, enfin, que Nietzsche, évidemment, avait porté lui-même au plus haut, déjà, hein. Mais la figure de Dionysos, c'est un nom pour l'excès, finalement, c'est-à-dire c'est un nom pour une espèce de débordement, une exubérance, un bouillonnement de vie et de fièvre, où Bataille, à la suite d'ailleurs de Marcel Mauss, hein, voyait finalement la véritable forme du sacré. Et donc c'est un sacré qui est pas tellement incarnable en des figures mythologiques précises, les dieux si vous voulez, mais qui est essentiellement incarnable, qui se distribue en deux pôles, un pôle gauche et un pôle droit, c'est-à-dire un sacré qui serait pur et qui finalement a donné naissance à la religion chrétienne, ou à ce que Bataille reçoit comme éducation, comme christianisme à travers son éducation dans le moment de sa jeunesse où il est catholique, et d'un autre côté un sacré impur, le sacré maudit si vous voulez. Bref, il y a un pôle gauche et un pôle droit, et une circulation très forte entre les deux, une espèce de courant d'énergie, et c'est ce bouillonnement là qui intéresse Bataille, me semble-t-il.
Est-ce que d'une certaine manière, Christian Lambé, on ne trouve pas quelque chose de l'ordre de ce que vous dites dans la manière dont Bataille parle tout le temps de l'immonde, l'immonde du côté de l'immondice, bien entendu, mais l'immonde tel que Lacan en parle, et on peut se demander si Lacan ne l'a pas repris à Bataille, d'ailleurs en partie, c'est-à-dire ce qui n'est pas de l'ordre de ce monde, de ce qui est au-delà de ce monde, de ce qui est de l'ordre d'un réel, et d'un réel d'une certaine manière inaccessible.
Oui, sans aucun doute. D'abord, comme vous le soutenez, la dette de Lacan à l'égard de Bataille est considérable, et on pourrait soutenir que l'objet petit a lacanien doit énormément à la doctrine que Bataille s'est faite du déchet, mais aussi l'immonde, alors dans les deux sens que vous dites, suppose l'attention que Bataille a apportée au langage et à la sexualité, et au nœud du langage et de la sexualité. Je fais expressément référence à ce qu'il dit du langage ordurier de l'amour, dans l'amour, dans le livre qui porte le titre « L'érotisme ». Bien entendu, il a pensé l'immonde ici à la fois comme un effet de la parole et comme une traduction dans la parole de cette part de la dépense et de l'excès que l'économie de la constitution des sociétés veut ignorer et que nos vies ordinaires ignorent également. Mais du même coup, il a pensé aussi quelque chose qui soit hors du monde de la production et qu'il appellera justement le régime de la dépense. De sorte qu'on va voir s'instaurer, en tout cas dans l'érotisme et dans la part maudite, une forme assez subtile de dualisme, me semble-t-il. Même quelquefois un peu naïf. D'où d'ailleurs les dualités de termes. Transgression, normes. Loi et transgression, désir évidemment porteur d'infini, face à la mesure ou à la productivité, dépense, avec l'usage qu'il fait bien sûr de Marcel Mauss et du potlatch, face à l'accumulation. Bref, tous ces termes en opposition désigneraient au fond deux grandes configurations opposées, qui sont en effet le monde et l'autre monde, ou l'immonde, ou l'or du monde, qui est pour lui, évidemment, à la fois sous le signe de l'horreur et sous le signe de du risque de la mort.
Ce qui est intéressant dans le camp de bataille, d'une part, c'est éventuellement une sorte de parenté qu'il peut y avoir profonde entre la sainteté, ou disons l'exercice du sacré, et la folie. Et d'autre part, ça me fait penser aussi à l'une des propositions du DSM-4, enfin qui est le grand manuel des psychiatres aujourd'hui, dans lequel on considère que le potlatch, c'est-à-dire précisément la dépense totalement gratuite, est un signe de folie et un marqueur en quelque sorte d'une activité psychotique. Et on a l'impression que Bataille, je dirais, a une immense cohérence de ce point de vue-là, je dirais à l'envers des valeurs de notre société.
Oui, à l'envers des valeurs de notre société, ça paraît très clair. Dans l'ABC, donc, il y a deux figures qui s'opposent très nettement. L'une se nomme Madame Anus, ça s'écrit H-A-N-U-2-S-E, mais naturellement on l'entend autrement, et c'est la figure de la religiosité anale, pour le dire un peu sauvagement, c'est-à-dire la figure d'une accumulation un peu timide, précautionneuse, d'un sacré très bien défini. Et naturellement, en face d'elle se trouve l'ABC, c'est-à-dire ce prêtre, l'abbé Robert, qui essaie de revenir à une autre forme de religion dont le roman se veut l'ABC, ou auquel le roman, forme à laquelle, pardon, le roman se veut l'initiation. Et alors là, en effet, on a une religion primitive qui est une religion du bouillonnement et de la dépense inconsidérée, mais aussi une religion de l'abjection, puisque l'abbé laisse des traces, des excrétas, si vous voulez, sous les fenêtres de la jeune Éponine qui lui a fait des avances. Et là, en effet, il y a quelque chose d'un peu fou, c'est sûr.
Il y a un problème qui s'oppose, Jean-François Louette, parce que je dirais ça ne rentre pas dans nos catégories traditionnelles, c'est, je dirais quand même, d'une certaine manière, il me semble à l'évidence, le rapport entre le divin d'une part, enfin ce qu'on appelle, je dirais conventionnellement le divin, et le féminin, et le corps féminin. Particulièrement, vous avez fait allusion à la fameuse scène de Madeleine Varda, je veux dire, montrer ses guenilles, comme on dit, et dire je suis Dieu, c'est quand même quelque chose d'assez renversant.
Ah oui, c'est la scène probablement la plus renversante de Madame Edwarda. Mais effectivement, ce qui est en question, c'est ce paradoxe de l'abjection, c'est-à-dire le plus intime, qui est l'objet ou le lieu ou la partie féminine la plus désirable, est en même temps soumis à un interdit. Un interdit de voir, un interdit d'exhibition, et donc ce qui intéresse là-dedans Bataille, c'est précisément que ça conjoint la plus grande valeur et en même temps le caractère le plus humoureux, liquoreux, viandeux, je sais pas comment il faut dire, du corps. Et alors les deux fournissent à Bataille ces deux pôles dont on parlait tout à l'heure, quoi, c'est-à-dire le pôle pur et le pôle impur, le pôle désirable et le pôle abject.
Oui, mais d'une certaine manière, on a l'impression que Bataille, je dirais, renverse les vues traditionnelles de la théologie. Je veux dire par là, je pense par exemple à des passages de Saint Jean Chrysostome, qui nous explique que nous sommes nés dans la matrice d'une femme, nous sommes passés par son sexe pour arriver au monde, et que en fait nous avons baigné dans l'urine, nous étions présents, en proximité avec ses excréments. Enfin bref, il nous explique que nous sommes venus de l'endroit le plus horrible du monde. Et on a l'impression que justement Bataille, finalement, dit la même chose, simplement il inverse complètement la perspective.
Oui, il inverse la perspective. Ça fait penser aussi à un passage de Saint Paul qui compare les membres du Christ et les membres d'une prostituée. Mais naturellement, maintenant, la différence est la hiérarchie. Et Bataille, lui, inverse la perspective en les identifiant. Hein. Mais cette divinisation du corps de la femme, c'est encore une fois, c'est pas une divinisation ascensionnelle, si vous voulez. C'est-à-dire que ça n'est pas pour rien non plus que Madame Edwarda est une prostituée. Et donc, c'est aussi bien une manière de diviniser un féminin qui avait été longtemps tenu pour impur, que de, je sais pas comment dire, d'impurifier le divin. Hein, c'est les deux à la fois.
D'une certaine manière, lorsque Bataille parle de la sexualité, et Dieu sait qu'il en parle souvent, et à quel point il s'y attache, est-ce qu'il n'y a pas précisément cette intuition que, à travers la sexualité, on touche à quelque chose qui est de l'ordre, je dirais pas de l'inhumain, mais de l'au-delà de l'humain, c'est-à-dire qu'il y a dans la sexualité quelque chose qui est de l'ordre du réel?
Oui, il est de ce point de vue tributaire, de manière créatrice, bien entendu, de l'ethnologie, de l'anthropologie contemporaine, enfin c'est contemporaine, qui était attachée à l'étude de ces phénomènes religieux dans lesquels la transe spirituelle, pourrait-on dire, ne faisait qu'un avec la transe sexuelle, d'une part. Et d'autre part, il est profondément délié d'un certain type de discours freudien. D'où d'ailleurs l'intérêt de l'étude du rapport de Lacan à Bataille, parce que il faudra toute une reprise assez géniale par Lacan pour que ça puisse se réconcilier avec Freud. Et d'autre part, il est tout à fait peu... comment dirais-je, attentif aux questions du plaisir. Le plaisir, à mon avis, n'intéresse pas Bataille, contrairement à Foucault, qui, lui, ne s'intéressera qu'aux questions du plaisir. Ce qui l'intéresse, c'est un certain type de jouissance qui ne fait qu'un avec la dépossession de soi, quand même les dernières pages du Bleu du Ciel sont de ce point de vue le plus beau témoignage qu'on puisse en trouver chez Bataille, mais enfin aussi bien La haine de la poésie, qui est un texte absolument fabuleux. Et par conséquent, il donne à la jouissance et à la sexualité un sens tout à fait spécifique qui n'est absolument pas assignable à la psychanalyse, ni aux philosophies du plaisir, encore moins à l'hédonisme, et alors encore moins à tout ce qui se baptise érotisme par pure et simple homonymie avec le sens du terme chez Bataille.
Par rapport à cette jouissance dont vous parlez, Christian Jambet, qui quant à moi me semble être plutôt du côté de ce que Lacan appellerait la jouissance autre, encore que Bataille le décline tout à fait à sa manière, il y a quand même une question qui se pose, à savoir, est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas très proche, peut-être est-ce aussi dû à la formation de Bataille, on n'est pas très proche de ce que, tout à fait à tort, sans aucun doute, en Occident, nous avons appelé la prostitution sacrée. Je veux dire par là que la jouissance se trouve avec des femmes qui sont de l'ordre précisément, qui sont des prostituées en réalité, et qui en tant que prostituées procurent et vivent elles-mêmes une jouissance dans laquelle, en fin de compte, le divin se révèle.
Il y a sur ce point deux textes, enfin même plus, en fait, disons deux textes fondamentaux qui sont Madame Edouarda d'une part, et puis bien entendu l'histoire de l'œil. Dans Madame Edouarda, qui est expressément un commentaire d'une phrase de Hegel, le propos sur la femme est de dire que son désir est le désir Dieu, et que sa jouissance se trouve en Dieu, ou plus précisément dans le fait de pouvoir dire « je suis Dieu », et de dévoiler l'essence de la divinité, c'est-à-dire ce qu'il y a d'absolument transcendant, en excès, et par conséquent, au total absolument irreprésentable, dans ce qu'elle appelle ses guenilles. Avec ce mot « regarde », comme si une contemplation suprasensible, telle que les néoplatoniciens ou d'autres mystiques ont pu la supposer, se confondait là avec la contemplation sensible de ce qu'il y a de plus innommable, et en tout cas de plus éloigné des représentations vulgaires de la grandeur de Dieu. Il y a donc dans la femme, pour Bataille, le centre de la représentation inversée et donc négative de Dieu, correspondant à l'authentique divinité telle qu'elle peut se concevoir de manière apophatique et négative, par voie de négation des attributs de grandeur. Mais du même coup, il y a quelque chose qui se dit de la femme, qui est que si elle ne peut révéler sa vérité que dans le fait que sa jouissance soit la jouissance de Dieu, par Dieu, en Dieu, et selon qu'elle s'unit de manière mystérieuse au divin, son désir ne peut être que désir de prostitution. Là, on rejoint bien entendu les pages les plus remarquables de blasphème dans l'histoire de l'œil, mais aussi évidemment les pages de théoriques, en particulier dans l'érotisme. Or, on comprend généralement très mal cette proposition, comme si Bataille voulait dire que toutes les femmes sont des putains, ce qui est évidemment une vulgarité, une absurdité. Pas ça du tout. Signifie que Bataille rejoint, à mon avis, une lignée importante de penseurs pour qui la prostitution est en elle-même en effet sacrée, non seulement la prostitution sacrée au sens religieux du terme, mais la prostitution recèle un mystère qui d'ailleurs va de pair avec le mystère de l'argent. Et là, il faudrait citer rapidement Blois, bien entendu, Claudel, avec la question de l'échange, et Bataille lui-même, et puis peut-être d'autres, Barbé d'Orvilly et quelques autres. La prostitution, non pas comme symbole de l'échange bourgeois, ce qu'elle est par exemple chez Marx, mais la prostitution comme lieu mystérieux de la dépossession de soi-même et de son propre corps dans une aliénation qui en même temps révèle la souveraineté. C'est cela qui serait le propre de la femme, et c'est par là que la prostitution en révélerait à la fois le danger, la puissance souveraine et aussi évidemment la jouissance.
On a l'impression, d'une certaine manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-François Louette, mais que Bataille est extrêmement proche d'un certain nombre de courants mystiques qui sont généralement assez peu connus. Je pense particulièrement au ce qu'on appelle le quiétisme. C'est-à-dire qu'on se confie tellement à Dieu que, d'une certaine manière, on n'est plus qu'un déchet. On n'est plus qu'une déjection, en quelque sorte, et comme si précisément dans la confiance totale faite au sacré, on se découvrait finalement comme de l'ordre du rien, et d'une certaine manière, je dirais, c'est rien qui devient la gloire de la vie.
Oui, alors ce que vous dites du piétisme est très intéressant dans la mesure où il y a dans le piétisme une forme de passivité, vous disiez se confier, se donner à Dieu, qui intéresse Bataille. C'est-à-dire que Bataille a plus d'une fois reproché au mysticisme d'être encore une forme de travail, hein, c'est-à-dire au sens où l'ascèse impliquerait un effort, une progression encore à peu près calculée avec différentes étapes, l'ascension d'une espèce de montagne mentale, hein, le Mont Carmel si l'on veut. Eh bien, si le mysticisme est de ce côté-là, alors il n'intéresse pas Bataille, parce qu'il implique calcul, projet, même pour aboutir à une perte de soi, vous voyez. Cela dit, il faut quand même marquer aussi la différence, et la différence forte qui sépare Bataille du mysticisme, c'est-à-dire que au terme du mysticisme, il y a quand même confusion de soi avec, dans une relation immédiate, avec l'absolu, et avec un absolu qui est un bien. Ce qui est très frappant dans le monde de Bataille, et en particulier dans ce roman qui s'intitule L'ABC, c'est que pour Bataille, se confondre avec Dieu, ça veut dire se confondre avec ce que Dieu a laissé faire, c'est-à-dire se confondre aussi avec le mal. Vous voyez, Bataille dit un jour plaisamment à Marguerite Duras que être Dieu, c'est quand même pas une situation très enviable, et parce que finalement, il a laissé faire le pire. Hein. Naturellement, il dit ça après la Deuxième Guerre mondiale, où en effet, Dieu a pas été d'une efficacité redoutable. Et l'ABC est donc quelqu'un qui vit cette identification avec le divin jusqu'à la trahison incluse. Dieu a d'une certaine manière trahi le monde en laissant le mal advenir et se déployer, se déchaîner, et le personnage lui-même va trahir pour aller jusqu'au bout de cette identification, mais qui implique aussi une espèce de réversibilité ou de confusion, je sais pas comment il faut dire, entre bien et mal.
Est-ce que, d'une certaine manière, Christian Jambet, nous ne sommes pas, avec Georges Bataille, extrêmement proches d'un certain esprit gnostique? Je veux dire par là, je pense à une page très gnostique, il me semble, de Lautréamont dans Les Chants du Maltoror, dans laquelle il explique que Dieu a perdu un cheveu au bordel et qu'à partir de cela va se faire un certain type de création. Je pense aussi à une figure comme celle de l'Hélène de Tyr, de Simon le Lycien, qui est la Sophia déchue, l'énoïa de Dieu, la pensée de Dieu, mais qu'il est obligé d'aller chercher au bordel, dans un bouge à matelot de Tyr, pour effectivement, en s'unissant à elle, recréer la grandeur divine. Et on a l'impression que Bataille, le sachant pas, je suis incapable de le dire, mais s'inscrit dans cette famille d'esprit.
Oui, il s'inscrit dans une famille d'esprit gnostique, dans une famille d'esprit anti-légalitaire, donc pour qui l'expérience réelle du divin passe par l'abolition de la loi ou sa transgression, presque dire d'une famille d'esprit marcionite. Et aussi, alors, peut-être, selon ce que vous-même proposez, d'ailleurs, dans une famille d'esprit pour lesquels il y a deux sens positifs à donner, de manière gnostique, à la pratique transgressive. D'une part, ceux qui voulaient épuiser le mal en l'accomplissant. Cette idée que c'est dans l'accomplissement de la transgression que s'opère la délivrance, puisque la loi ne faisant qu'un avec le péché, c'est l'accomplissement même du péché qui exténue la loi. Et puis alors l'autre famille d'esprit qui voit dans la délivrance à l'égard de toute loi et dans le fait d'aller repêcher en effet l'étincelle de lumière au bordel, une descente dans l'enfer charnel qui à la fois transfigure la chair et en arrache la particule chue, la particule qui est déchue. D'où d'ailleurs le satanisme de chez Bataille et sa proximité avec l'usage que l'on connaît bien chez dans certains courants mystiques de l'affiliation à des thèmes lucifériens par damnation volontaire, etc., etc. Alors il n'est pas du tout sûr qu'il est tout véritablement bien connu, mais d'abord il n'est pas du tout sûr qu'il l'ait pas connu. Et surtout, on peut repérer après coup ces thèmes. Enfin, Bataille s'est formé dans un milieu essentiellement celui de la naissance de la science des religions, j'allais dire à la française. Enfin, quand on peut rappeler peut-être qu'il était très proche de gens, aussi bien sûr Kojève que Corbin, que Michaud, que bien d'autres, Henri-Charles Le Puech, etc., qui baignaient, si j'ose dire, dans l'évocation permanente de ces grandes découvertes, à ce moment-là, que l'on opposait volontiers, d'ailleurs, à l'Église officielle.
On sait qu'il y a un rapport quand même très profond de Bataille à l'érotisme. Il suffit de lire Les Larmes des Roses ou son livre sur l'érotisme. Et on s'aperçoit que précisément dans l'érotisme, il y a quelque chose de l'ordre de la transgression. Ou sinon, il n'y a pas d'érotisme d'une certaine manière. Et on peut se demander aussi quel est le rapport quand même avec le mal en tant que tel. Je pense à ces considérations sur Gilles Deray, dans la mesure où là, nous avons de l'ordre de la transgression, de l'ordre de l'érotisme, et à l'évidence, une dimension du mal affirmée et d'une certaine manière, je dirais, assumée.
Oui, il y a une grandeur dans le mal que Bataille reconnaît bien volontiers et qui lui apparaît dans la filiation de Sade une dimension essentielle de l'humain. Mais encore une fois, je crois que Bataille refuserait qu'on verse dans un manichéisme. C'est le caractère le plus obscur de sa pensée qui est là en jeu, hein, c'est-à-dire cette espèce de réversibilité, si vous voulez, cette réversibilité qui fait que quand on trahit, par exemple, ce qui apparaît comme une forme traditionnelle du mal, surtout après la guerre, et j'en reviens encore à l'ABC, quand on trahit, on fait le mal, mais en même temps, on participe à l'essence de Dieu, puisque Dieu a lui-même donné l'exemple. Si bien que les catégories du bien et du mal, elles sont à la fois posées et rejetées par Bataille du même geste.
Quand on parle de transgression d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas la définir de la manière la plus large possible, c'est-à-dire l'outrepassement des limites, en quelque sorte, alors même que en tant qu'êtres humains, nous sommes limités, nous sommes dans la finitude, et d'une certaine manière, cet outrepassement des limites, c'est une mise en cause de notre condition humaine, tout en faisant que ça n'a de sens que si précisément nous sommes des humains. C'est-à-dire là aussi nous tombons sur quelque chose qui est de l'ordre du paradoxe.
Oui, alors oui, ça, mise en cause des limites, c'est certain. La transgression, c'est le dépassement de toutes les limites, ou du moins l'effort pour dépasser toutes les limites. Enfin, quand je dis l'effort, hein, il faut que ça apparaisse comme un mouvement naturel ou spontané. Toujours cette polémique de Bataille contre l'idée de but. Mais Bataille est quelqu'un qui a vécu, me semble-t-il, très profondément la condition humaine comme une espèce de prison, le corps lui-même comme une espèce de cellule et un contenant qui doit s'excéder lui-même si on veut aller vers la limite et si on veut essayer de la franchir. D'où ce caractère absolument déchaîné de ces personnages, féminins en particulier, mais aussi quelqu'un comme Tropman. Comment faire pour être Tropman, c'est-à-dire pour être trop homme, pour être homme du trop, plus qu'homme, c'est toute l'enjeu, c'est tout l'enjeu de ce personnage.
Si je suis ce que vous dites, Jean-François Louette, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on arrive, je dirais, aux abords incompréhensibles, aux abords de l'impensable? Parce que d'une certaine manière, ça me fait penser à la phrase de Nietzsche, dont évidemment Bataille ne pouvait que la connaître, c'est « il faut être plus grand que sa propre vie ». Mais je dirais, d'un point de vue logique, c'est une phrase qui n'a pas de sens, et pourtant nous sentons bien que ça a un sens extrêmement profond. Et on a l'impression que Bataille, finalement, se meut sans arrêt dans ce territoire.
Oui, dans son vocabulaire, ce que vous dites correspond à l'opposition du possible et de l'impossible. Beaucoup de gens se meuvent dans le possible, qui est somme toute quadrillé, arpentable, et puis quelques-uns essaient de se lancer du côté de l'impossible, c'est-à-dire la catégorie d'un au-delà qui serait un au-delà immanent. Un au-delà immanent à l'homme et une espèce de transcendance horizontale, si on voit vraiment de paradoxe en paradoxe. L'impossible, c'est la catégorie non logique de ce que la logique ne maîtrise pas, tout simplement. Hein. Je crois qu'on peut revenir à la phrase célèbre « L'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort » qui ouvre le livre « L'érotisme » en 1957 et qui correspond bien à ces deux pôles. C'est-à-dire on peut lire Bataille soit du côté de la vie, du bouillonnement de la vie, soit du côté de l'exploration de la mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire « L'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort » c'est intéressant, je crois, rapidement d'étaler les significations diverses. D'abord, il y a tout simplement le souvenir de la petite mort. Peut-être que dans l'orgasme, on éprouve un avant-goût de l'anéantissement. Deuxièmement, il y a cette idée que faire l'amour avec quelqu'un, dit Bataille, c'est opérer la destruction de son être fermé. Il y a une espèce de violence mortifère qui est engagée. Troisièmement, il y a un argument de type anatomique, quasiment. Ce sont les muqueuses à nu qui se rencontrent dans l'amour sexuel, avec leur caractère périssable, fragile. Il y a un argument de type biologique, c'est-à-dire la reproduction suppose la rencontre d'un spermatozoïde et puis d'une ovule, disons, et finalement le passage de deux êtres discontinus, leur mort pour créer un nouvel être continu qui est le troisième qui va naître. Et puis il y a aussi simplement cette idée que la rage érotique implique une forme d'inconscience et donc de une autre définition de la vie humaine dans laquelle on pourrait plus confondre la vie et la conscience et dans laquelle quelque chose se joue de la mort à soi au profit de la communication avec l'autre.
Il y a un thème qui demande à être explicité sans aucun doute, Christian Jambet, c'est la place de la mort chez Bataille. Dans la mesure où il le remarque, il dit mais finalement la vie dans notre vocabulaire commun n'est pas quelque chose de spécialement bien considéré. Faire la vie est assez péjoratif, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que la mort semble occuper une place centrale et avec ce motif alors tout à fait mystérieux qui est le titre même de l'un de ses petits textes, la pratique de la joie devant la mort.
Oui, ce qui est difficile à restituer, peut-être, c'est le sentiment que l'on a devant ce texte, tout autre texte de Bataille, où il y a le mot mort, soit d'ailleurs la mort, soit le mort. Bon, le sentiment que l'on a, qu'il ne s'agit pas du statut hegelien de la mort, comme simple négativité et passage, ça n'est pas non plus le statut de la pulsion de mort, au sens freudien, ça n'est pas non plus la mort comme finité ou comme finitude, et encore moins, bien sûr, comme contraire de l'immortalité, mais la mort comme expérience de l'évanouissement, d'où d'ailleurs les pages fameuses où il commente l'expression courante « la petite mort », et aussi, bien sûr, donc, ces pages où il commente la mort mystique ou l'évanouissement en Dieu ou dans l'objet aimé, et où s'expérimente la vanité du possible. et par conséquent la puissance de l'impossible. Le thème de l'impossible qui est si important chez lui et qui passera, alors, à mon avis, là, avec Armes et Bagages, chez Lacan, est un thème absolument fondamental parce que il vient bouleverser toute l'ontologie classique et la logique classique des modalités de l'être. Le fait que ce qui au fond gouverne le réel soit l'impossible, et que ce soit l'impossible qui soit non seulement l'objet du désir et sa cause, mais au fond la structure même de ce désir, et que l'impossible ne puisse finalement opérer que dans le risque de la mort, c'est ça qui donne à la mort sa signification. Or, l'impossible est aux yeux de Bataille ce qui congédie de manière absolument décisive le manque de sérieux du possible et du nécessaire. De là que Bataille étant marqué toute la génération qui a suivi sa propre mort, c'est-à-dire la génération qui se voulait libérée d'une manière ou d'une autre du souci du possible. Et que ce qui demeure de l'œuvre de Bataille, ce soit précisément cette insouciance de la survie, ce mépris de la philosophie de la survie, qui en fait une pensée essentiellement révolutionnaire.
Cette posture, si vous voulez, fait vraiment penser à la belle analyse de Foucault au sujet de la transgression dans un article de critique qu'il avait intitulé « Préface à la transgression », où il disait que le meilleur moyen de comprendre la transgression, qui est finalement un concept clé dans le monde de Bataille, c'est l'éclair. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'éclair, sinon quelque chose qui illumine et qui du coup fait apparaître une nuit dense et noire, qu'en même temps, étant lumière, l'éclair conteste. Hein. Donc c'est une espèce de contestation qui présuppose l'affirmation non positive de ce qui est rejeté par l'éclair. Et de même, la transgression présuppose l'affirmation non positive de tout un sacré traditionnel chez Bataille. Hein.
Dans les livres de cette semaine, j'aimerais en partie tout au moins prolonger la réflexion que nous venons d'avoir sur l'œuvre de Georges Bataille par des notions qui sont soit parentes, soit au moins connexes. Et le premier livre de ce point de vue-là que je voudrais signaler est celui de Bassir Amiri qui s'intitule « Chaos ». « Chaos dans l'imaginaire antique » en partant de ce grand écrivain qui était Varron jusqu'à l'époque augustinienne, le 5e siècle après Jésus-Christ, au moment où Rome, en quelque sorte, va tomber aux mains des barbares. Livre qui est publié par l'Association pour la diffusion et la recherche sur l'Antiquité, association dont le siège est à Nancy. Or, on voit bien à quoi s'intéresse ce livre à travers cette notion de chaos. C'est d'une part de remonter à la signification originelle de ce mot, tel que nous le trouvons particulièrement dans la Théogonie d'Hésiode, lorsqu'on nous dit « au début était chaos »,« chaos », pour prononcer à la grecque, mais avec le sens particulier, primordial, qui était celui de ce mot « chaos », qui n'est pas tellement le sens que nous connaissons aujourd'hui de quelque chose d'informe, quelque chose qui n'a pas encore trouvé sa véritable structure, mais c'était d'abord la faille, c'était d'abord l'abéance, et comme l'a bien montré quelqu'un comme Jean-Pierre Vernant, c'était d'une certaine façon une fantasmatique, si l'on peut dire, du sexe féminin et de l'origine maternelle, si l'on peut dire, de l'ensemble de notre monde. Et puis, on nous montre comment, effectivement, cette notion a évolué au courant des siècles, chez les Grecs d'abord, chez les Latins ensuite, jusqu'à recouvrir la notion d'enfer, précisément par le fait que tout cela est de l'ordre de la forme, n'a pas encore reçu de structure particulière, n'a pas encore reçu de figure particulière, et à travers cette notion d'enfer, cette notion d'informe, cette liaison en même temps essentielle qui reste toujours avec la féminité, et de ce point de vue-là d'ailleurs on pourrait retrouver certaines des intuitions de Georges Bataille ou de Jacques Lacan, qui est liée avec l'idée de la folie, avec l'idée de la passion, et éventuellement avec une certaine idée de la perversion, étant entendu que, bien sûr, on ne doit pas mettre de jugement moral dans ce terme. Poursuivez, l'homme indigène avec ses fouets, par-delà le Styx, par-delà les rêves. Envoyez-le dans le gouffre vide, sur les ténèbres des titans, sous les retraites du Tartare, et sous notre chaos, là où se cachent les ténèbres de la nuit sombre. Claudien, traité contre Ruffin. Et puis, puisque nous parlions d'une manière ou d'une autre de la sainteté, on nous l'a rappelé, Georges Bataille disait lui-même « ou je suis un fou, ou je suis un saint », eh bien, j'aimerais signaler, d'une part, la réédition aux éditions François-Xavier de Guibert de « La douloureuse passion du Christ », due à la plume visionnaire de Anne-Catherine Emmerich et transcrite par le grand poète romantique allemand qui était Clemens Brentano, et en même temps à l'étude sur Anne-Catherine Emmerich qui nous est donnée par Joachim Boufflet aux presses de la Renaissance. Anne-Catherine Emmerich, on sait que c'est cette visionnaire du 19e siècle en Allemagne qui, d'une part, à travers ses visions, a revécu, si l'on peut dire, l'ensemble de la passion du Christ, et qui, en même temps, a reçu ce qu'il est convenu d'appeler le don des stigmates. Alors, le problème n'est pas de savoir si ces visions étaient de l'ordre de la vérité et de la vérité historique, et sans aucun doute d'ailleurs ne l'étaient-elles pas, c'était beaucoup plus la construction d'un monde à travers une imagination créatrice. Le problème n'est pas tellement de savoir comment on explique ou on n'explique pas les stigmates par des phénomènes de réduction physiologique ou de réduction psychologique, mais beaucoup plus de voir quel est précisément, dans une vue phénoménologique, le monde de vision, le monde qui nous est décrit ainsi, et la manière dont, à travers cette expérience intérieure, cette expérience extrêmement profonde, et en collaboration précisément avec le scribe de Anne-Catherine Emmerich, Clemens Brentano, je le répète, l'un des plus grands auteurs et certainement l'un des plus grands tempéraments poétiques de l'Allemagne romantique, comment donc nous entrons dans un monde qui est au-delà de notre monde, même si éventuellement ce n'est pas celui de la divinité retirée dans son secret. Le sauveur regarda Marie avec une tendresse ineffable. Puis il tourna les yeux vers Jean et dit à Marie « Femme, voici ton fils. Il sera votre fils, davantage que si vous l'aviez enfanté. » Il fit encore l'éloge de Jean et dit « Il a toujours eu une foi inébranlable et ne s'est jamais scandalisé, sauf quand sa mère a voulu qu'il soit élevé au-dessus des autres. » Puis il dit à Jean « Voici ta mère. » Puisque nous parlons de saints, d'une certaine manière, on voit bien comment se font les associations d'idées, je voudrais attirer l'attention sur le petit ouvrage de Sylvie Barnet, « Les saints des êtres de chair et de ciel » aux éditions Gallimard, dans la collection Découverte. On voit très bien, en effet, comment les saints, jusqu'à assez récemment, étaient d'abord reconnus par le peuple, si l'on peut dire, dans une sorte d'appétence qu'il avait et de reconnaissance qu'il avait d'une vie particulièrement hors du commun et qui pouvait être exemplaire, et il nous est montré comment, au-delà de la notion de service, tout un certain nombre de procédures et de procédures juridiques, si l'on peut dire, se sont mises en place au XIIIe siècle, et comment, de ce point de vue-là, le mouvement, si l'on peut dire, de divinisation qui caractérisait la vie des saints a beaucoup plus répondu à des règles, à une mise en place d'un certain nombre de lois à l'intérieur de l'Église et donc a dû se conformer à l'institution ecclésiale. Et c'est tout ce parcours que nous permet de faire Sylvie Barnet et de comprendre comment on est passé de la notion antique du saint jusqu'à la notion actuelle. En France, au XVIIIe siècle, la montée d'un péril mystique et politique fait craindre l'incontrôlable. À Paris, des scènes de convulsions collectives et des miracles ont lieu au cimetière de Saint-Médard. La papauté prend aussitôt des mesures, et les causes au surnaturel, jugées trop extraordinaires, sont pour la plupart bloqués. Enfin, je voudrais terminer par une évocation de La Nef des Fous de Sébastien Brandt, aux éditions José Corti. La Nef des Fous, on sait que c'est un livre, si l'on peut dire, canonique pour notre Occident, qui voit le jour d'ailleurs, et d'une façon tout à fait symbolique, tout à fait parlante, au carnaval de l'année 1494, et où à travers le texte de Sébastien Brandt, ce qui nous est dit, c'est que d'une certaine façon, en fin de compte, c'est notre monde qui est fou, et que n'est pas fou celui que l'on croit d'habitude, c'est nous qui sommes fous dans notre prétendument sagesse, et de ce point de vue-là, on trouverait peut-être d'ailleurs une application ou une illustration de la fameuse déclaration sur la folie et la sagesse des hommes aux yeux de Dieu, telle qu'on les trouve dans les épîtres de saint Paul. Et d'une autre manière, ce qui nous est décrit d'ailleurs, ce n'est pas en même temps la folie policée, telle qu'elle sera mise en avant dans l'éloge de la folie par Erasme dans le courant de l'humanisme, mais beaucoup plus une description de notre monde qui est gouverné par l'avarice, qui est gouverné par la puissance de l'argent, qui est gouverné par la puissance de l'ego, par la puissance de l'orgueil, et nous montrer comme tout cela est folie en fin de compte, et que finalement, ce que nous appelons la folie est ce qui nous permet de sortir de cette folie intrinsèque de notre univers. Eh bien fou, celui qui prétend suivre le monde et le bon Dieu, car tel valet qui a deux maîtres, il ne sert bien aucun des deux. L'ouvrier sabote l'ouvrage, s'il prétend mettre à tout la main. Qui veut en même temps courir de lièvre et n'a qu'un seul chien, il veut bien ce qu'il attrape.
Les livres aujourd'hui. Chaos de Massir Améry, édité par l'Association pour la diffusion et la recherche sur l'Antiquité de Nancy. Une réédition de La douloureuse passion du Christ de Anne-Catherine Emmerich aux éditions François-Xavier de Guibert. Une étude sur Anne-Catherine Emmerich par Joachim Boufflère aux presses de la Renaissance. Les saints des êtres de chair et de ciel de Sylvie Barnet aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. Et La Nef des Fous de Sébastien Brandt aux éditions José Corti. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Christian Jambet et de Jean-François Louette. Mixage Jean-Marc Potry, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azéra. France Culture.